programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 24 mai 2024. Dans l'est de la RDC, Médecins sans frontières appelle à la protection des civils. Au Niger, 70 enfants contaminés au fluor souffrent désormais de malformations. Au Tchad, Alamaï Alina, nommé Premier ministre en remplacement de Succès Masra. Le Kenya est désormais un allié majeur non membre de l'OTAN, de l'Amérique, un statut qui confère des privilèges militaires et diplomatiques. La Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive militaire sur la ville de Rafah. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Médecins sans frontières a appelé aujourd'hui à la protection des civils au milieu des combats entre l'armée et les groupes armés, dont le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans les camps autour de Goma, les tirs d'artillerie lourdes ont causé la mort de 23 personnes et fait 52 blessés depuis février, s'alarme l'ONG Nathalie Barge.
Les camps de déplacés doivent être respectés par toutes les parties au conflit et les combats doivent cesser à proximité, a déclaré Marie Brun, coordonnatrice d'urgence pour MSF à Goma dans le Nord Kivu. Le 3 mai dernier, des bombardements ayant touché des sites de déplacés ont fait 18 morts et 32 blessés, en majorité des femmes et des enfants, précise-t-elle. MSF dit avoir recensé 24 incidents depuis janvier ayant impliqué des tirs d'obus à l'intérieur ou autour des camps où travaille l'ONG. Marie Brun affirme que ces dernières semaines, Goma s'est peu à peu retrouvée encerclée par plusieurs lignes de front avec plus de 600 000 personnes déplacées et 2 millions d'habitants entassés sur un territoire restreint. La concentration de porteurs d'armes à l'intérieur et autour des camps de personnes déplacées et le rapprochement des positions militaires a entraîné une augmentation du niveau de violence, alerte MSF. Marie Brun précise que les civils sont dans l'insécurité la plus totale et n'ont plus aucune échappatoire. Elle souligne qu'ils sont pris en étau entre les différents groupes armés, blessés et tués dans des tirs croisés, victimes de la criminalité et de violences sexuelles.
Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont fui leur maison à Al-Fashir après un raid des paramilitaires et des forces de soutien rapide qui se battent pour s'emparer du dernier bastion de l'armée dans la région du Darfour occidental. Les FSA ont attaqué et pillé le vaste camp d'Abou Chouk mercredi, tuant un nombre indéterminé de personnes. Environ 60% des plus de 100 000 habitants ont fui jeudi, selon le comité de coordination pour les réfugiés et les personnes déplacées qui supervisent les camps de la région. Les combats se sont poursuivis dans d'autres parties d'Al-Fashir ce vendredi même, selon des habitants. Un navire battant pavillon libérien a été secouru d'une attaque de pirates présumés au large des forts des côtes somaliennes et ses 17 membres d'équipage étaient sains et saufs, d'après la force navale de l'Union européenne. Le navire battant pavillon libérien a été abordé jeudi par des pirates présumés à environ 380 miles nautiques à l'est de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, alors qu'il naviguait vers le nord. Les pirates somaliens ont provoqué de fortes perturbations au large de la côte du pays d'Afrique de l'Est en 2008 et 2018. S'ils avaient interrompu leurs agissements jusqu'à la fin de l'année dernière, leurs activités ont repris depuis. Au Niger, 70 enfants du village de Dadinkowa, dans la région de Maradi, dans le sud du pays, sont atteints de malformations graves après avoir bu de l'eau à forte teneur de fluor. L'information est révélée par la télévision d'État. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
D'après la télévision publique, ces enfants âgés de 2 à 10 ans souffrent de malformations des membres qui résultent de la consommation d'eau issue d'un forage avec un excès de fluor. Ce forage a été construit à Dadinkowa par un partenaire humanitaire qui n'a pas su impliquer les services compétents pour la réalisation de cet ouvrage hydraulique, affirme un reportage de la télévision réalisé à l'occasion d'une visite du colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé, venu voir les enfants. Le reportage précise que sur les 70 victimes, 7 ont été opérées avec succès et 23 autres doivent l'être prochainement. Depuis des décennies, Dadinkowa est en proie à de graves inondations qui engloutissent l'unique puits du village, privant temporairement d'eau potable ses habitants. En 2001, le Niger avait déjà été secoué par un scandale similaire d'enfants contaminés au fluor. Cette année-là, le centre de santé de Tibiri, un autre village de la région du Maradi, avait dénombré 4 918 enfants atteints par diverses malformations provoquées par un taux excessif de fluor dans l'eau distribué entre 1985 et 2000 par la Société nigérienne des eaux.
Le mouvement du premier ministre civil malien, Choguel Kokala Maïga, nommé par la junte, a critiqué ouvertement les colonels au pouvoir pour la première fois ce vendredi. Le M5-RFP s'oppose fermement dans un communiqué à un éventuel maintien des colonels au pouvoir, plusieurs années supplémentaires à leur promotion au rang de général et à l'ouverture d'un dialogue avec les djihadistes. Ces propositions sont des recommandations issues de récentes consultations nationales organisées par la junte qui a signalé son intention de les mettre en œuvre. Choguel Kokala Maïga n'a pas réagi dans l'immédiat à cette position de son mouvement. La Côte d'Ivoire a rendu aujourd'hui hommage au palais présidentiel à Abidjan à Henri Konan Bédier, deuxième président du pays de 1993 à 1999, décédé en août dernier. De nombreux responsables politiques de tous bords ont assisté à cet hommage d'environ 1h30. La cérémonie s'est achevée après les honneurs militaires par la remise du drapeau ivoirien à sa veuve, Henriette Konan Bédier. La dépouille de l'ex-président quittera Abidjan dimanche pour rejoindre sa région natale de Daoukro dans le centre du pays. Il sera inhumé dans la stricte intimité familiale le 1er juin dans le village voisin de Pépressou.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La plus haute juridiction de l'ONU ordonne à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah. L'Afrique du Sud et le Hamas ont salué la décision. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué ses ministres pour consultation. Davantage avec Alexandrine Olignon.
Israël doit arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, a déclaré la cour qui siège à la Haye. L'offensive, selon la CIG, serait susceptible d'infliger au groupe des Palestiniens de Gaza des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique ou partielle. La cour a aussi ordonné à Israël de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire. La juridiction a également appelé à la libération immédiate des personnes prises en otage par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre contre Israël. L'Afrique du Sud, qui a porté l'affaire devant la CIG en décembre dernier, a salué une décision plus ferme de la CIG. Le Hamas a également salué la décision, tout en déplorant qu'elle se limite seulement à Rafah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui réuni ce vendredi pour consultation plusieurs ministres de son gouvernement lors d'une conférence téléphonique à propos de cette décision, selon une annonce de son bureau.
Le président kényan William Ruto poursuit sa visite aux États-Unis, où son homologue américain a déclaré hier que le Kenya est désormais un allié majeur non membre de l'OTAN de l'Amérique. Le point avec Eddie Sango.
C'est au cours d'un dîner de gala avec pour invité surprise l'ancien président Barack Obama de père kényan que Joe Biden a annoncé la promotion du Kenya à ses rangs, signe de l'aboutissement d'années de collaboration selon la déclaration du président américain aux médias à la Maison-Blanche. Le Kenya devient donc le premier pays d'Afrique subsaharienne à recevoir ces titres qui confèrent aux États concernés 18 jusqu'ici, des privilèges militaires et diplomatiques. Les deux dirigeants ont été interrogés sur l'envoi d'une force kényane en Haïti, mais n'ont pas fait d'annonce concrète sur le début de la mission internationale censée ramener un peu de stabilité et de sécurité dans ces pays des Caraïbes. La force amenée par Nairobi et fortement encouragée par les États-Unis peut briser les gants, qu'a assuré William Ruto. Le président kényan a également plaidé aux États-Unis pour un soutien aux efforts de son pays en matière de paix et de sécurité face aux crises dans la Corne de l'Afrique ainsi que dans la région des Grands Lacs. Les deux gouvernements ont lancé un appel sur la dette souveraine dont la Chine est le premier créancier. C'est là pour permettre à Nairobi d'avoir un accès à des pratiques de prêt transparentes, durables et accessibles. Washington renforce ses liens avec Nairobi au moment où la Russie et la Chine avancent aussi dans les continents africains.
La Maison-Blanche appelle à déployer rapidement une force internationale en Haïti après la mort de missionnaires. Et puis l'armée chinoise a poursuivi aujourd'hui ses manœuvres autour de Taïwan, des exercices qui visent à évaluer la capacité de ses forces à s'emparer du pouvoir. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, à la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La compagnie pétrolière Perenco a découvert un gisement pétrolier au large des côtes de la RDC suite à un forage entre les champs Lukami et Motoba, une première depuis 30 ans. Perenco a engagé une série de travaux de maintenance sur le site. La direction de l'entreprise a déclaré être convaincue que les nouveaux projets vont conduire à la valorisation du GPL sur le marché local et fournir plus de gaz pour l'électricité. Selon Bloomberg, le Nigeria a émis des obligations domestiques entre février et avril pour refinancer une dette de plus de 3,3 milliards de dollars contractée auprès de la Banque centrale. Le Parlement a approuvé en décembre une demande du président Bola Tinubu pour convertir 7 500 milliards de naira de dette de l'État en obligations de longue échéance. Sous la présidence de Muhammadu Buhari, le gouvernement avait ignoré les limites de financement du budget de l'État. Lors de la rencontre G7 Finance en Italie, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a plaidé pour un front uni face aux surcapacités industrielles de la Chine qui génèrent des déséquilibres macroéconomiques, a-t-elle déclaré. Madame Yellen a dit que le G7 reconnaît le besoin de protéger les travailleurs contre des pratiques déloyales menaçant la viabilité d'entreprises dans le monde entier, y compris les marchés émergents comme le Mexique et l'Afrique du Sud.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La Basketball Africa League reprend du service avec les play-offs au Rwanda.
Deux matchs ce vendredi, les Libyens d'Alali ont disposé des Sud-Africains de Cape Town Tigers, 87-76. Le second met aux prises dans un choc nord-africain les champions en titre égyptiens d'Alali et les Marocains de Fus de Rabat à la BK Arena de Kigali. Les huit meilleures équipes de cette saison 4 s'affrontent du 24 mai au 1er juin. Ce sont Alali d'Égypte, Alali de la Libye, l'AS Douane du Sénégal, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, Fus de Rabat, Petro de Luanda, les River Supers du Nigeria et l'US Monastir de la Tunisie. Et pour rappel, cette phase est un tour de classement. Les quarts de finale débutent ce dimanche.
Ici en NBA, les finales de conférence se poursuivent. Boston mène 2-0 face à Indiana.
Et oui, les Boston Celtics ont dominé les Indiana Pacers 126-110 à domicile en finale de conférence Est. Grand favori de cette série au meilleur des 7 matchs, les Celtics ont assumé leur statut après avoir péniblement gagné la première rencontre mardi. Jaylen Brown déjà avait fait figure de héros en arrachant la prolongation. Cette fois, l'ailier a compilé 40 points. Côté Pacers, le Camerounais Pascal Siakam a compilé 28 points. Mené 2-0, Indiana se retrouve en position délicate et doit réagir lors du match 3 demain à domicile. À l'ouest, Dallas mène 1-0 contre Minnesota et les deux jouent leur deuxième match, disons, ce soir à Minneapolis.
Match à guichet fermé pour la finale retour de la Ligue des champions CAF et c'est OK.
Après le match nul 0-0 à l'aller en Tunisie, cette finale retour entre Alali d'Égypte et l'Espérance sportive de Tunis va se disputer à guichet fermé au stade international du Caire. D'après la CAF, les billets du match se sont écoulés en 2 heures. L'Espérance sportive de Tunis reste sur une série de 5 matchs à élimination directe en Ligue des champions. Sans avoir encaissé le moindre but, les Tunisiens vont tenter de remporter la compétition pour la 2e fois depuis 2019. Alali, club le plus titré dans cette compétition, lui veut renforcer son succès avec 11 trophées si toutefois il gagne le match demain.
Le FC Barcelone se sépare de son entraîneur.
Le Barça a annoncé le départ de son entraîneur Xavi Hernandez après une saison que le géant catalan a terminé à la 2e place du championnat d'Espagne sans trophée. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, a dit à Xavi Hernandez qu'il ne serait plus l'entraîneur pour la saison 2024-2025, indique un communiqué du club précisant que Xavi serait sur le banc pour le dernier match de Liga dimanche contre le FC Séville. Xavi a été joueur et capitaine de l'équipe première du FC Barcelone entre 1998 et 2015 et selon la presse, l'ex-entraîneur du Bayern Munich et de l'Allemagne Hansi Flick est l'un des favoris pour le remplacer.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, aussitôt après avoir prêté serment comme nouveau président de la République, l'ex-chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, a déjà pris un acte. Il a nommé l'ancien ambassadeur du Tchad auprès de la Chine, premier ministre, chef du gouvernement. Une nomination diversement appréciée par les citoyens et organisations de la société civile. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Le tout premier ministre de la 5e République, Alamaï Alina, n'est pas un inconnu dans l'administration tchadienne. Il était le tout dernier chef du protocole de la présidence sous maréchal Idriss Déby Itno, mort en avril 2021. Ensuite, il a été nommé ambassadeur du Tchad auprès de la République populaire de Chine par Mahamat Idriss Déby Itno pendant la transition. Pour certains, l'homme incarne le choix de la confiance, de la loyauté, de la fidélité du père au fils. Quelques citoyens tchadiens donnent leur avis au micro de VOA Afrique.
Espérons que ça doit être un bon gars pour que le pays change, parce qu'on a assez souffert. C'est ce que je souhaite.
Premier ministre Cheikh est inconnu. Premier ministre Naskatir Mayarfou, notre succès. Succès Massara, une des visions. Une des visions fait balade, il a fait beaucoup de choses. Donc, aucun succès, il a gardé le Cheikh Katir Fogo.
Dans ce pays-là, les gens nous ont habitués avec tout ce qui est négatif. Donc, moi, je ne compte pas beaucoup sur la nomination de premier ministre. Il ne va rien changer de son pays-là. Mais bon, le président lui-même, lors de son investiture, il dit qu'il va changer. Donc, si le président laisse le plein pouvoir au Premier ministre, peut-être que le Premier ministre a fait apporter quelque chose.
Mais pour certaines organisations de la société civile, ce nouveau Premier ministre ne sera qu'un figurant, puisque c'est le même système qui continue.
Il a de l'expérience, connaît les rouages de l'administration de la présidence, ça c'est un fait. Mais la réalité du pouvoir des Itno, c'est que c'est eux qui te manipulent, c'est ça le problème. Et Succès Masra avait raison de dire que son poste est sans objet.
Sosten Bernoudi, écrivain et coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés au Tchad. Pour lui, le Tchad est dans une logique de recyclage.
Le président Mahamat Idriss Déby lui-même l'a dit dans son livre que Alamaï est un fidèle parmi les fidèles. Ce monsieur, quoi qu'il ait fait la diplomatie ou des études universitaires, eh bien, le poste déjà du premier ministre au Tchad, c'est une portion congrue. C'est-à-dire que tu n'as aucun pouvoir de décision. Tout le pouvoir est dévolu au président. Ce n'est pas un premier ministre futur, celui-là sorti du sérail, de la mouvance, qui peut changer.
Les hommes politiques estiment qu'Alamaï est un administrateur neutre qui peut véritablement travailler aux côtés du président pour la refondation du Tchad. Amoula Touah est le président du parti, merci.
Le Tchad a besoin d'un grand partenaire où il a un peu une connaissance en psychologie sur la diplomatie tchadienne. Et dans cette optique aussi, c'est un homme qui ne s'est pas affiché dans la politique partout. Il est vraiment neutre, presque neutre dans le milieu politique, parce qu'on ne le connaît pas comme les autres. Donc, moi, j'apprécie cette nomination de M. Alamaï en qualité le tout premier ministre de la 5e République qui est fondée sur la refondation même de la République. Donc, on a besoin d'un technocrate et presque une personne neutre dans certaines affaires.
Les choses sont allées très vite. Le premier ministre sortant, Dr. Succès Masra, lui a passé le bâton de commandement à 24 heures seulement après sa nomination. La liste de son nouveau gouvernement est attendue dans les prochaines André Kordoma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête avec pour objectif de faire la lumière sur les circonstances entourant le présumé coup d'État avorté à Kinshasa. Quels impacts pourrait avoir la présumée tentative de coup d'État sur la politique intérieure et extérieure de la RDC? Eddy Sango s'est entretenu avec Christian Moleka par téléphone. Il est le coordinateur de la plateforme dynamique des politologues de la RDC basée dans la capitale congolaise.
D'un point de vue de l'Union sacrée, c'est-à-dire la plateforme du président de la République, ce coup d'État peut être un point de départ de suspicion entre alliés. On a vu, après le coup d'État, que les partisans de l'actuel speaker de l'Assemblée, Vital Kamerhe, ont très vite crié à une tentative d'assassinat. tandis que le narratif officiel parlait de coup d'État. Et donc on a dès le départ senti ce double narratif entre ceux qui pensaient que le coup visait à éliminer physiquement le prétendant au perchoir de l'Assemblée, et ceux qui dès le départ liaient rapidement le coup d'État au chef de l'État et donc au renversement de l'institution de la République. Et donc ce coup d'État et ce point de friction peut être une ligne de dissension entre alliés si très vite on ne participe pas à résoudre cette incompréhension ou cette incongruité-là. D'un point de vue de l'opposition par contre, on a vu dès le coup d'État beaucoup d'opposants réagir rapidement sur Twitter comme pour se désolidariser de la démarche, parce que ça peut être rapidement un levier politique ou un levier sécuritaire pour mettre en œuvre des mécanismes ou des mesures, des rétorsions vers des acteurs politiques. On sent des discours montés notamment contre l'Église catholique et contre certains opposants. Et donc il est possible qu'avec avec ces coups d'État, des passerelles ou des liens d'interprétation lient ces événements au jeu politique intérieur. Depuis la montée de Corneille Nangaa et de l'AFC, il y a plus en plus d'interprétations, de collisions entre les questions sécuritaires, à l'Est notamment, et les jeux politiques en interne. Et donc ce coup d'État peut servir de nouveau levier pour justifier cette plus grande collision entre la sécurité et la politique.
Cette crainte était exprimée déjà quand le gouvernement a levé les moratoires sur la peine de mort, il y a quelques semaines.
La levée de moratoire a été considérée pour certains comme un pas de plus vers une forme d'autoritarisme régressif, et que c'était un levier utilisé par le pouvoir politique pour restreindre à la fois l'espace public, les jeux de l'opposition politique, et également de fermer le jeu intérieur, probablement en perspective des grands enjeux qui peuvent venir demain. Le coup d'État vient conforter par contre la position de défenseur des moratoires. Ils pourront s'en justifier désormais par le fait qu'il y a des possibilités d'atteinte à la sûreté de l'État, des possibilités de complicité en interne, et donc le moratoire devient levier pour eux plus justifié qu'hier. Par contre, pour les opposants, il y aura des raisons de craindre que justement les événements du coup d'État participent à légitimer encore plus grandement cette levée de moratoire.
Et sur le plan international,
le Congo, depuis quelques temps, traverse des moments de tension avec certains pays, est en froid avec quelques pays voisins, notamment le Rwanda, et on parle de plus en plus de l'Ouganda, qui serait relié également à la problématique des M23. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup citent Brazzaville ou le Kenya comme de point de passage de Christian Malanga pourrait renforcer cette position d'isolation, d'isolement diplomatique de Kinshasa vis-à-vis des pays de la sous-région. On a encore vu les dernières sorties médiatiques de William Ruto qui vont d'ailleurs renforcer probablement cette froideur des relations diplomatiques.
Mais on parle plutôt d'implication des étrangers dans cette tentative de coup d'État. On parle d'Américains, des Britanniques et autres.
Dans ce sentiment-là, parfois justifié d'une complexité internationale qui vise à mettre à mal les intérêts du Congo, à soutenir la guerre à l'Est, se trouve également conforté par la présence des étrangers dans ces mouvements.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Au Burkina Faso, à un peu plus d'un mois de la fin de la transition, le pays tient à partir de demain des assises nationales. Ces assises devront se pencher sur la suite à donner à la transition depuis l'avènement au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. À quelques heures de l'ouverture de ces assises, les avis sont plutôt partagés. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Après les premières assises en octobre 2022 ayant désigné le capitaine Ibrahim Traoré président de la transition pour 21 mois, la transition prend fin en juillet prochain. Les forces vives, comme on les appelle, les différentes composantes de la société, devront se retrouver pour 2 jours pour décider de la suite de la transition. Sauf que pour les présentes assises, les avis sont partagés. Salifou Kabouré, doctorant à l'université de Ouagadougou.
Elle devrait normalement et aboutir à un changement de régime. En ce qui me concerne, bien sûr, à un changement de régime pour peut-être permettre à une diversité d'acteurs pour gérer les problèmes du pays.
Massi Congo, entrepreneur en transformation agroalimentaire, juriste d'affaires, constate que c'est la meilleure façon. Je me dis que c'est que nous sommes en train de traverser. On a des assises, des assises.
I'm not afraid of the dark.